Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Crème de la Crème. On est ensemble sur Canal B pendant une heure en FM, et oui, fini les problèmes, et puis aussi en DAB+, et aussi sur canalb.fr. Une émission où on retrouvera en fin de partie tout à l'heure Soisig Le Bay pour un bouquet garni numéro 8. Elle nous présentera Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie d'Élise Goldberg aux éditions Verdier. Et puis on retrouvera aussi Ronan pour la page culture. Il a pu s'entretenir avec la nouvelle directrice du théâtre de poche de Hédé Bazouge. Il nous parlera aussi de ce que peut être la production, la diffusion ou l'action culturelle au théâtre. Avant ça encore, on aura pu parler avec J.S. Nicolet du festival Autre Mesure qui arrive à Rennes après les vacances de Noël du 7 janvier au 11 février. Festival de musique contemporaine in situ. Et puis on commence directement avec la machine à remonter le son numéro 49. Et c'est la troisième fois depuis lundi d'ailleurs qu'on évoque l'année 1978. Je vous en reparle. Bonne émission.
Ah bon ?
Ah oui, oui, oui.
Thank you.
Chaque semaine, Crème de la Crème revient sur une année choisie au hasard entre 1960 et 2022, histoire de redécouvrir des chansons plus ou moins oubliées et puis aussi des classiques intemporels. La groupe majeure de ce qu'on a appelé le post-punk, aux côtés de Joy Division, de Gang of Four et puis de Public Image Limited, c'est un peu la bande des quatre Wire à l'instant avec ce titre I Am The Fly. On retrouvera ce morceau sur le deuxième album du groupe londonien Chairs Missing en 1978, et on reviendra sans doute à un classique post-punk dans l'émission de jeudi, mais pour l'instant eh bien c'est avec Moondog qu'on s'évade et qu'on part du côté du festival Autre Mesure, 9e édition, à retrouver du 7 janvier au 11 février. On en parle dans quelques minutes avec J.S. Nicolet.
I'm just a hothead, and so I'll be till I'm dead. I started hopping when first I hopped into bed.
Alors non, on l'entend pas forcément chanter très souvent, mais là si, on l'entend, Moondog. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est pas Moondog notre invité, non ?
Non. Il est plus là malheureusement.
Non, toi tu es bien vivant, J.S. Nicolet, on va parler de Autre Mesure, festival de musique contemporaine in situ qui donne sa 9e. Alors on espère qu'elle sera...
Elle est un peu étoffée déjà celle-là, elle est bien joufflue.
Bon, la 9e édition donc, évidemment, là on parle de musique contemporaine, donc Beethoven c'est un peu trop vieux peut-être.
C'est ça, en général on considère que la musique contemporaine c'est l'après-guerre.
Donc là, on va être plus contemporain donc avec des pièces qui seront jouées un peu partout à Rennes, dans une période du 7 janvier au 11 février. Toujours Mélène Dalibert et J.S. Nicolet qui sont un peu à la destinée de ce festival quand même.
Ouais, on est au Net. Après, il y a une association derrière aussi qui est très active et qui fait les choix avec nous.
Alors, une programmation qui vous fera entendre donc Moondog, mais jouée par une sorte de super groupe, super formation, comme on en trouve dans la musique pop depuis les années 1970. Ce titre de Moondog vient de Alt Songs. Moondog n'a pas été que ce viking qui errait dans les rues new-yorkaises, en fait.
Non, c'est aussi un compositeur de chansons. En fait, c'est ça qu'on va découvrir à l'Opéra cette année. C'est à l'occasion d'une carte blanche à Olivier Mélano, guitariste fort connu par chez nous, qui n'habite plus à Rennes depuis peu, mais voilà. Et en gros, avec l'Opéra, on avait envie de lui proposer double carte blanche. Une première autour de Moondog, donc un répertoire de chansons qui s'appelle les Art Songs, qui ont été redécouvertes il n'y a pas si longtemps et qui ont fait l'objet d'un disque. Et le deuxième soir sera autour de Gabriel Fauré. Alors là, on fait une petite entorse par rapport aux musiques contemporaines, c'est un peu plus ancien. Mais il s'avère aussi que Gabriel Fauré était rennais, c'est les 100 ans de sa mort l'année prochaine. Donc on a trouvé un lien un petit peu tordu, mais on l'a trouvé quand même.
On pourra se balader dans divers lieux, évidemment, à Rennes, puisque le festival Autre Mesure nous emmènera entre le Musée des Beaux-Arts le 7 janvier jusqu'au Frac Bretagne le 11 février. Mais entre ces deux extrémités, la chapelle du Conservatoire, les du Lab Pasteur, le Conservatoire du Blône, toute la ville en fait.
Toute la ville, l'antipode, etc.
Ça, c'était vraiment l'envie à la création d'Autre Mesure d'être un festival in situ, comme ça, qui change un petit peu des lieux.
C'est ça. À l'origine, c'est de proposer une espèce de parcours dans la ville, avec des concerts à des horaires un petit peu inusités aussi, et puis des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à la musique au départ, donc qui permettent aussi une écoute un peu différente, pas forcément une stabilité du public aussi, donc c'est-à-dire qu'on peut y rester 5 minutes si ça ne nous plaît pas, on peut partir, revenir, enfin voilà. Il y a une question de qualité d'écoute qui est un peu différente, c'est ce qu'on cherche à faire. On sait que la musique contemporaine fait peur. C'est un mot qui fait peur. La réalité, c'est que c'est très très accessible et en fait, on s'en rend compte année après année parce qu'on a de plus en plus de monde qui vient au festival. Donc, ce sera encore le cas cette année, on espère bien.
Elle est peut-être plus ou moins accessible en fonction de comment on fait la programmation d'un festival aussi.
C'est ça, et c'est un peu pour ça aussi qu'on ouvre l'Opéra cette année. On a une ouverture plus pop, on va dire. C'est aussi montrer que des artistes pop comme Bertrand Belin, par exemple, pour ne pas le citer, est capable aussi, lui, de jouer un répertoire, celui de Moondog. Et en gros, beaucoup de musiciens qui sont issus de la variété ou de la chanson ont aussi des des oreilles grandes ouvertes. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de pouvoir aussi montrer que chacun et chacune peut s'y retrouver dans ces répertoires-là, en fait.
Alors si moi je vais faire peut-être un balayage comme ça rapide de quelques noms que vous pourrez retrouver jouer de la musique, ils sont pas là juste parce qu'ils ont un nom, hein, ils sont là pour jouer de la musique évidemment, de Olivier Mélano à Bertrand Belin que tu citais, en passant par Rosemary Stanley, la chanteuse du groupe Moriarty. Moriarty est un petit peu en stand-by, mais elle fait des...
C'est notre régional de l'étape aussi. Hein.
Elle habite à Rennes, c'est vrai, Rosemary Stanley. On retrouvera une icône de la musique indépendante américaine, David Grubbs, guitariste hors pair.
Oui, très ravi, enfin vraiment ravi de l'avoir. Hein. David, c'est un peu un hasard, je pourrais le raconter un peu dans le détail, mais il s'avère qu'en fait, j'avais eu un contact par Facebook, parce qu'il avait annoncé qu'il cherchait à monter des dates en France. Et ça s'est fait comme ça, par le truchement de personnes qui m'ont tagué, et on s'est repris en contact parce qu'on se connaissait un petit peu, et la tournée a été montée, et ça a venu à Rennes aussi.
On aura peut-être plus de détails encore sur les concerts de David Grubbs, musicien de Gastro del Sol notamment, mais qui a aussi pu contribuer à des enregistrements avec Matt Moss, avec Red Crayola, grand groupe des années 1960, donc un monstre, on peut le dire.
Oui.
On peut le dire, mais des monstres, il y en a d'autres présents dans cette édition numéro 9 d'autres mesures. On peut citer notamment le japonais Otomo Yoshihide.
Ouais, là si c'est une action un peu collective, c'est un travail qu'on a fait avec notamment le Panonica à Nantes. On avait tous repéré qu'il venait au son d'hiver à Paris, et puis c'était un petit peu stupide qu'il vienne que pour une date en France. Voilà, et c'est un répertoire un peu particulier, c'est son format de jazz. C'est le New Jazz Quintet, il a fait que 5 albums sur 100 albums enregistrés sur ce New Jazz, donc il vient pas avec les platines, il vient avec une guitare.
Christine Haute, Des Ondes Marteneau, la STPO, le plus ancien groupe en activité à Rennes. Enfin, on balaye très large, en fait.
Oui, exactement. Bah, en fait, les esthétiques de musique contemporaine, c'est pas une case. C'est, on se rencontre aujourd'hui, on peut toucher effectivement au free jazz, à la musique improvisée, à la musique d'ambiance, on peut à la musique écrite, de répertoire. Enfin, finalement, quand on regarde les playlists des uns et des autres, on a tous un petit peu de musique contemporaine dedans.
Un festival qui existe depuis 2015, qui a dû subir lui aussi quelques versions un petit peu fantômes ou absentes complètement.
Ouais, l'année Covid, tu veux dire?
Par exemple.
On avait réussi à maintenir une programmation mais éclatée dans l'année. Ça avait été un peu différent, mais on avait quand même respecté nos engagements avec les artistes.
Là, on est à quelques semaines, 3 semaines du début de ce festival. On est comment là, JS?
Alors, on est dans le dur là, un peu dans la logistique. Pour rien cacher, c'est les questions d'hôtel, de transport qui sont en train d'être terminées, les feuilles de route, comme on appelle ça, le déroulé des journées pour les artistes qu'on envoie tout ça avant Noël parce qu'on va avoir autre chose à faire.
Bah forcément, c'est obligé. On ne va pas évoquer évidemment tous les événements, tous les concerts, tous les lieux, mais quand même, télétransportons-nous le 7 janvier, on est au Musée des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui va s'y passer?
Alors déjà, c'est un lieu partenaire depuis très très longtemps, les Musées des Beaux-Arts, donc c'est une équipe qui nous accueille tous les ans. Là, ce sera la clôture de l'exposition sur Slody Kamian, donc un artiste graphiste qui travaille plutôt sur la rue. Et puis nous, on a eu envie de proposer la pianiste Eve Risser, qui est une pianiste en fait de jazz, un peu free jazz improvisé, et qui a ce projet un peu rare avec Naini Diabaté, une chanteuse du Mali, et alors qui bénéficie pour encore quelques temps d'un passeport pour venir chez nous, parce que comme vous le savez peut-être pas, mais ça fait partie de ces pays qui sont plus autorisés à venir en France pour quelques temps, en tout cas pour des questions politiques. Et donc il y a un peu un acte aussi revendicatif là-dessus. Et au-delà de ça, le répertoire, donc on est sur du chant mélangé à du piano improvisé, c'est extrêmement prenant. Il faut vraiment voir ce projet en live.
Là, je vais quand même insister un petit peu sur l'Opéra de Rennes, parce que c'est un beau lieu quand même qu'il faut mettre en avant. Vous êtes content de l'utiliser aussi. Cet Opéra de Rennes à deux reprises, toujours dans cette carte blanche à Olivier Mélano, mais dans deux aspects que tu as déjà évoqués. Revenons quand même sur cette carte blanche autour de Art Songs de Moondog. Beau track listing sans doute, mais beau aussi générique, hein, de nombreuses personnalités. Ça semble autour d'Olivier Mélano.
Oui, Olivier, il a effectivement un très gros carnet d'adresses. Hein. Après, il avait déjà monté donc effectivement le avec Boom pour l'ouverture, qui est le deuxième programme, l'ouverture du festival d'Avignon, où il y avait eu un grand nombre de chanteurs, dont David, dont Etienne Dao par exemple. Et là, en gros, il a fait appel à pas mal de chanteurs qui ont tous une existence un peu particulière. Je pense par exemple à Jay Westock, qui était l'ancien chanteur de ZX par exemple, qui sera partie de la bande, au Borja Flames, que personnellement j'aime beaucoup, ou alors John Greaves. Enfin voilà, il a tout un. Chaque soir, on aura en tout cas une sélection de musiciens et chanteurs et chanteuses qui viendront donc interpréter le premier soir Moondog et le deuxième soir Gabriel Fauré. Et tout cela à chaque fois orchestré et mis en œuvre par Olivier Mélano.
Dans un sommeil que charme ton image, je... Yeah.
entendiez un extrait de cette pièce de Gabriel Fauré à l'origine par l'ensemble Baume avec une invitée. La voix, c'était Rosemary Stanley qu'on entendait à l'instant. Ça, c'est pour la deuxième soirée carte blanche à Olivier Mélano. On parlait de Beau Monde sur la première soirée du 9. C'est pas mal aussi, là. Hein.
Oui, les deux distributions sont superbes. Alors, effectivement, on n'a pas tous les grands noms des Sandrine Caquet et autres artistes qui avaient pu participer à l'ouverture d'Avignon. Mais on est très très confiants. La qualité sera au rendez-vous de toute manière. Et dans les noms, si vous voulez en citer quelques-uns, il y a Kiri Chris Manson, par exemple, Hugo Paganotti, John Greaves à nouveau, Hugh Coltman, Élise Caron. Voilà. C'est des grandes distributions, hein, y a beaucoup de monde sur scène.
Vous aurez l'occasion d'aller faire un tour, j'espère, d'ici le début du festival le 7 janvier sur le site toutneufautremesure.com. Voilà, oui. Un vrai beau site pour le festival vous permettra de rien rater, évidemment, de ces événements. Alors, certains des concerts sont gratuits tout de même.
Oui, quasiment. Enfin, 70% des concerts sont gratuits. On a ouvert, en fait, dans les salles qui sont plutôt des salles de concerts classiques. Là, on est repassé sur du payant, mais à des prix plutôt symboliques, ou en tout cas accessibles. C'était l'objet.
Ce qui permet évidemment à ceux qui seraient encore un petit peu effrayés, hein, tu le disais, inquiets de ce vocable musique contemporaine, de passer le pas assez facilement.
Exactement, faut y aller, faut pousser la porte.
Aller au Champ Libre par exemple le 17 janvier pour entendre les pianistes et violonistes Ninon Hanecker-Segal et Noémie Schindler, par exemple, ce sera un concert qui lui se déroulera sur le temps du midi.
C'est ça, c'est les fameux concerts du midi des Champs Libres. On a toujours une petite carte blanche tous les ans, et là pour le coup on est plus sur un répertoire écrit, donc on a vraiment alto, violon plus piano, piano à trois pédales parce qu'il fallait préciser après de la pianiste. Et le répertoire, ça, donc on va avoir pas mal d'auteurs et autrices qui sont moins joués. Il y a George Crumb par exemple, il y aura du Schubert par exemple aussi, donc on est aussi à la limite, mais du Xenakis, etc.
Je disais qu'on n'évoquerait pas tous les concerts, mais pourtant là on suit un petit peu chronologiquement ce qui va se passer, parce que là c'est un gros morceau aussi du festival. Bon, il n'y a que des beaux et des gros morceaux dans le festival Autre Mesure. C'est la présence donc de David Grubbs à l'Institut franco-américain le 17 janvier. Toi qui le connais depuis bien longtemps, explique-nous en quoi finalement c'est une figure incontournable des musiques indépendantes américaines des années 90 jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, bah peut-être que beaucoup d'auditeurs l'auront découvert effectivement par Gastro Del Sol, Bastro, Squirrel Bites, ses collaborations évidemment avec John McEntire et puis Jim O'Rourke, ça c'était Gastro Del Sol. Après, c'est aussi un universitaire, donc c'est quelqu'un qui étudie l'harmonie, la composition, donc il est à l'université de Chicago, et en ce sens-là, il a aussi travaillé beaucoup avec d'autres artistes et expérimenté d'autres travaux, c'est recherché au niveau du son, des textures, comment pouvoir composer de la musique. Donc on l'a vu bosser avec Matt Moss, tu l'as dit tout à l'heure, ou avec plein d'autres artistes, Red Crayola. Enfin, c'est quelqu'un aussi qui a toujours été à la recherche des musiques qui étaient moins diffusées. Donc c'est aussi pour ça qu'on a redécouvert Mayo Thompson et Red Crayola, parce qu'il avait, ça a été ressorti sur Drag City grâce à lui et Jim O'Rourke à l'époque. Personnage vraiment important pour toutes les musiques post-rock, rock un peu tordu.
Tous les guitaristes ne sont pas des guitares héros à la Jimi Hendrix, non. Forcément, mais là on peut quand même parler d'un héros de la guitare avec David Grubbs.
Oui, il n'est pas dans la démonstration, mais il n'est pas dans la monstration, il est vraiment dans le travail de son, et d'ailleurs il va vraiment venir dans son plus sympa appareil, puisque c'est guitare tout seul.
De même, un petit pas de côté par rapport à Outre Mesure. Tu me disais un peu en antenne avant de commencer cette discussion qu'il y a une relation qui s'est créée entre Melaine Dalibert du festival Outre Mesure, pianiste rennais qu'on connaît bien, et puis David Grubbs.
Bah ça, c'est un petit peu l'occasion de cette tournée que j'ai montée pour faire venir David. Bah, il était là en Angleterre. Il est prévu venir en Angleterre pour un concert au Café Auto. Et puis, donc j'ai monté quelques dates en France pour pouvoir consolider sa venue chez nous. Et on a monté une date à Lille, notamment avec l'aéronef. Et puis, la discussion a eu lieu entre les deux en disant ce serait bien si on jouait ensemble sur cette soirée, et donc ils se sont mis à discuter eux-mêmes tous les deux de ce qu'ils pouvaient proposer ensemble, de trouver un lien entre le piano de Melaine Dalibert et la guitare un peu tordue de David Grubbs. Donc il y aura chez eux pour les Lillois une petite carte blanche spécifique que nous n'aurons pas le droit nous à Rennes. Corky's away, yeah. Corky's a good pony. Take you anywhere he knows that you'll be free. So grab around his neck, riding on his back. He knows you and he knows. Riding through the town, yeah. Out where the strong winds cooling on the sun.
so grab around his neck, riding on his back. Grab around his neck, riding on his back. He knows you and he knows me.
Continuons notre balade dans le festival Autre Mesure avec cette fois-ci eh bien, Peter Broderick et l'ensemble Zéro, une création qui sera proposée par le festival, par les musiciens en tout cas, au conservatoire du Blown. Ce sera le 25 janvier. Un musicien qui est un peu insaisissable en fait, Peter Broderick, mais qui a toujours des choses à nous
entendre. Oui, il est toujours perdu dedans à plein d'endroits. Peter Broderick, c'est quelqu'un qui vient d'un groupe, qui était dans un groupe qui s'appelait After Clank, qui a certainement passé pas mal de fois sur cette radio. Par ailleurs, il a aussi une carrière de pianiste solo, donc il avait sorti un très très beau disque sur Erased Tapes en début 2000, et là il s'avère qu'il est en tournée actuellement avec l'ensemble Zéro autour du projet d'Arthur Russell, Tower of Meanings. C'est pas ce qu'on accueillera cette année, on a décidé de partir sur un projet de création avec eux, donc plusieurs pièces qui vont être montées exprès pour nous, notamment des pièces de Pauline Oliveros, une création de Melaine, d'Alibert. Voilà, en gros, en tout cas, il y aura une première partie qui sera assurée par Peter Broderick en solo, puis l'ensemble Zéro, augmenté de certains musiciens du conservatoire.
Et je vois encore la présence à la distribution de ce concert-là de Melaine d'Alibert qui sera dans beaucoup beaucoup de concerts. En
alors
fait,
on essaye de ne pas faire d'entrisme, la réalité c'est qu'il est souvent partout déjà avant de commencer. Ouais. Donc par exemple il sera déjà aussi à l'opéra par exemple au piano parce qu'il fait partie de l'ensemble et ça il tournait déjà comme ça. Et par rapport au projet de création, là c'était une pièce qu'il lui voulait monter puisqu'il travaille sur l'algorithme musical depuis un certain temps et il travaille avec l'ensemble Zéro lui aussi depuis un certain temps, il tourne avec eux.
Voilà hein, ce qui explique pourquoi on le retrouve à plusieurs moments. On le retrouvera pas, c'est sûr, avec le 28 janvier, la venue de Otomo Yoshihide et son New Jazz Quintet, parce qu'il est avec son ensemble.
C'est ça.
Donc forcément, non, Melaine ne jouera pas. Là, un musicien qui a un univers tellement vaste que je vais avoir besoin de toi comme guide un petit peu pour nous le présenter.
Ah, Otomo Yoshihide. Ça va ramener mes années asile le plus sûr, ça.
Ah, c'est ça.
Bah, Otomo Yoshihide, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître notamment par l'usage de la platine, enfin le détournement de la platine, c'est-à-dire qu'il était en capacité de faire beaucoup de bruit avec et à jouer sur les textures. Il a aussi collaboré avec plein de groupes du Japon, mais aussi par exemple John Zorn. Il a été signé sur pas mal de disques, sur le label Zadig notamment, et son ensemble de jazz est moins connu. C'est un ensemble de jazz d'ailleurs qui n'en porte pas vraiment le nom, parce qu'on est vraiment sur un travail de texture aussi sonore, on est vraiment sur de l'improvisation pure. Lui là il joue de la guitare, il est avec un ensemble avec cuivre, batterie, que j'oublie pas, contrebasse, et il nous semblait pertinent aussi de montrer que la musique contemporaine n'était pas forcément liée à une case unique, c'est-à-dire qu'on peut toucher effectivement à des esthétiques et des chaleurs plutôt jazz qui pourraient être proches un peu d'Ornette Coleman dans les années 50-60 quoi.
Et Nina Garcia qui sera au même programme le 28 janvier à l'Antipode, elle joue la guitare aussi mais en solo.
C'est ça, voilà. Alors normalement elle utilise des spatialisations sonores dans son travail, là l'idée c'est qu'elle jouera au sol. On travaille plutôt sur un espèce de drone sonore très noise, une approche de la guitare très brute, et on trouvait que c'était une bonne entente possible pour les oreilles avant Otomo Yoshihide.
Je pourrais évidemment te demander de nous faire l'article sur Bertuf, sur Moqueux, sur tous ceux qui restent encore à retrouver au Festival Autre Mesure. On va peut-être laisser nos auditeurs aller chercher aussi un petit peu des informations. D'accord. Sachant que sur Canal B, vous aurez de larges échos de ce festival sur l'antenne à travers des rencontres, des siestes musicales aussi qu'on a pu proposer, notamment à David Grubbs qui l'a fait et vraiment est allé chercher dans sa collection de MP3. On la retrouvera pendant la durée du festival. Peut-être quelques derniers mots à nous donner, JS.
Bah oui, ce qui est intéressant de noter comme c'est que le festival travaille dans un écosystème avec beaucoup de partenaires. Donc on a cité les lieux in situ, etc. Mais je voulais aussi citer les Tombées de la Nuit, par exemple, qui nous suivent depuis vraiment très longtemps maintenant et qui sont dans un précieux soutien. Depuis 2 ans aussi, on travaille avec le festival Waterproof. On a toujours un programme en commun. Donc cette année, on le fera au pôle sud à Chartres de Bretagne, sur un projet qui s'appelle Les Souffles. Voilà, et je voulais aussi peut-être insister sur la clôture, parce qu'on a l'occasion d'inviter une organiste qui s'appelle Sarah Davachi, qui est une personnalité très importante pour les musiques de drone sur Org. On a eu pas si longtemps qu'Ali Malone qui est venu jouer dans le cadre du festival maintenant. On va dire que c'est l'autre grande figure de la composition sur Org.
On écoutera plutôt Otomo Yoshide, si tu veux bien, pour terminer.
Pas de problème.
Mais on aura l'occasion de réentendre cette musicienne Sarah Davachi d'ici le début du festival, le 7 janvier prochain. Toutes les infos, une dernière fois, sur autremesure.com. Eh bien, bonne fin de préparatif. Et
merci.
Je parle pas que de ceux de Noël, évidemment, pour le festival. Merci, JS. On termine donc avec Otomo Yoshide. Vous avez pu entendre quelques extraits de pièces par Otomo Yoshide, Peter Broderick et l'ensemble Zéro. Bien sûr, Boom avec Olivier Mélano et puis Rosemary Stanley à la voix tout à l'heure. Olivier Mélano sera notre invité dans l'émission de jeudi, d'ailleurs, dans Crème de la Crème. Et puis on entendait Moondog, un extrait du titre I'm Just Hop. On part à aider grâce à Ronan qui nous fait rencontrer la nouvelle directrice du Théâtre de Poche. Dans la page culture de Crème de la Crème aujourd'hui, on retrouve Ronan. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Pour une dernière fois, évoquer du théâtre dans cette émission, avant évidemment cette trêve de Noël. On se retrouvera bien sûr en 2024, je l'espère en tout cas. Aujourd'hui pour cette dernière chronique, eh bien rencontre et entretien avec Charlotte Duchamp, nouvelle directrice coordinatrice au Théâtre de Poche à aider. Donc c'est une spéciale Théâtre de Poche.
Et oui, car aujourd'hui on tire le portrait de cet endroit qu'on aime bien ici, hein, c'est le Théâtre de Poche, si loin, si proche, c'est à aider, c'est une petite vingtaine de kilomètres de Rennes, vers le nord, sur la route de Saint-Malo. Oui, on aime bien ce petit Théâtre de Poche pour sa programmation et puis aussi bien sûr son festival bonus, qui tous deux ont fait l'objet d'un certain nombre de chroniques dans cette émission. Et en effet, il y a eu du changement au Théâtre de Poche. Le joli collectif qui en assurait la direction depuis 13 ans, je crois, a choisi de poursuivre son aventure au Théâtre de l'Air Libre. Et c'est donc Charles Duchamp qui a été sélectionné pour reprendre la direction du Théâtre de Poche et qui s'est installé dans ses nouvelles fonctions au mois de septembre dernier. C'était donc là une occasion de faire un petit focus sur ce lieu et de comprendre, au-delà de la spécificité de cet endroit si particulier, les enjeux et le fonctionnement d'un petit théâtre subventionné. Et puis évidemment, c'était aussi l'occasion de découvrir aussi quelques pans du projet de la nouvelle équipe. J'ai donc profité de l'entretien que j'ai eu avec Pierre Maillet, alors rappelez-vous, c'est dans la dernière chronique du mercredi 29 novembre, pour faire d'une pierre deux coups, pardon, j'ai pas pu résister. J'ai donc demandé à Charlotte Duchamp de répondre à quelques questions. Et l'on commence tout de suite par la découverte du lieu qui s'étend tentaculaire au cœur du bourg d'Edé. Ambiance.
La salle de spectacle vraiment en elle-même, c'est vraiment comme son nom l'indique, un théâtre de poche qui a été aménagé dans les anciennes halles du marché et qui se situe rue Saint-Louis, à deux pas de la place principale de la place de la mairie, qui est une salle qui accueille 103 spectateurs avec avec le bar, le hall, qui est un lieu vraiment voilà de convivialité avant et après les spectacles avec un petit coin librairie. Cet espace-là, on s'en sert évidemment, comme je viens de l'expliquer, pour accueillir des spectacles, pour accueillir aussi des artistes en résidence, mais aussi des fois pour les ateliers, pour pourquoi pas aussi des réunions, différents types de moments. Juste à côté de ça, à 30 secondes, enfin non, à moins que ça, juste en face, de l'autre côté d'une sorte de petite cour gravillonnée, on a ce qu'on appelle le studio. Le studio, c'est une petite pièce qui nous sert pour des ateliers et des temps de répétition. On est vraiment sur une toute petite pièce carrée, voilà, mais qui dès qu'on est moins de 15, peut fonctionner en termes d'ateliers, de lieux annexes, parce que comme on n'a pas, comme on n'a qu'une salle de spectacle, c'est vrai que dès qu'on accueille des artistes, par exemple, il faut trouver un autre endroit pour pouvoir continuer les ateliers. Et puis, ensuite, à 30 secondes à pied, au bout de la rue, quand on retourne sur la place de la mairie à Edé, il y a une maison dont nous occupons le premier étage. Là, dans cette maison, on a nos bureaux. On a quatre bureaux dans lesquels l'équipe est répartie. Et puis, on a une grande pièce qui est à la fois la cuisine, la salle de réunion, le petit coin canapé, la cafétéria, pour les artistes, les techniciennes, les techniciens, et pour nous, équipe administrative des bureaux, et puis pour les bénévoles de l'asso quand ils passent nous voir ou quand les gens frappent à la porte pour savoir s'il reste un billet, voilà. Et en face de ça, ensuite, quand on traverse la place de la mairie, dans le bâtiment municipal, au premier étage se trouvent deux appartements, deux studios qui nous permettent de loger des équipes artistiques ou des équipes techniques pendant les résidences ou pendant les accueils de spectacles. Donc dès qu'on est sur des plus grosses équipes, on doit chercher des gîtes et d'autres logements. Mais quand on a des équipes pas trop grandes, ça nous permet de les accueillir ici. Et encore un autre lieu, derrière ce bâtiment-là se trouve un hangar dans lequel on stocke notre matériel qui nous sert à peaufiner un décor, à déployer toute la signalétique du festival, des projecteurs supplémentaires, etc.
Et oui, le théâtre de poche est aussi petit que charmant, mais il déborde et s'étend. Cependant, je trouve que chacun des lieux qu'il compose, finalement, illustre bien les missions que la plupart des théâtres subventionnés ont à charge de mener. Alors, on pourrait dire que ces missions se résument en trois mots: diffusion, soutien à la création et action culturelle. Alors, la diffusion, c'est la partie la plus visible de l'iceberg, évidemment, et ça se passe essentiellement dans la salle de spectacle, quoique pas toujours. Une saison au théâtre de poche, c'est une douzaine de spectacles, pour au moins une vingtaine de représentations, tout public ou scolaire. Et parmi ces spectacles, deux au moins seront nomades et iront sillonner les communautés de communes partenaires du théâtre de poche, Val-d'Aubigné et Bretagne romantique, pour aller au plus près de tous les publics. Alors la deuxième mission, elle est peut-être moins apparente pour le public, c'est le soutien à la création, on pourrait dire la production, ou une aide à la production, c'est-à-dire aider les compagnies à monter leurs projets, notamment et principalement sous la forme d'une aide en nature, si j'ose dire. C'est ce qu'on appelle la résidence, un temps où le théâtre accueille les compagnies, les héberge éventuellement, à un stade plus ou moins avancé de leur création. On peut être au début, dans une phase de recherche, ou tout à la fin, dans un travail au plateau. Et enfin, et ça n'est pas la moindre des missions de ce théâtre, c'est l'action culturelle, essentiellement sous la forme d'ateliers de pratique théâtrale proposés aux habitants du territoire. Ainsi, le théâtre de poche, c'est pas moins de 6 ateliers hebdomadaires, un pour les 6-10 ans, un autre pour les 10-13 ans, un autre pour les 14-17 ans, et enfin 2 ateliers pour les adultes. Ateliers amateurs dont on pourra voir le travail lors d'un week-end, projet de surprise. Je pense que ce sera plutôt programmé au printemps. Il y a aussi les ateliers immersifs, des ateliers résidences emmenés par des compagnies de la programmation qui ont lieu au sein même des établissements scolaires.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
À l'instant, vous entendiez Zao de Sagazan et la Symphonie des éclairs, un titre sélectionné par l'équipe du Théâtre de Poche AED.
Alors, le Théâtre de Poche, bah, c'est évidemment une équipe pour faire tourner ce qu'on vient d'évoquer. C'est le travail de 5 salariés qui doit cependant nécessairement s'articuler avec l'engagement des bénévoles, puisque le Théâtre de Poche, c'est avant tout une association. Une association de bénévoles dont on mesure l'implication quand on fréquente un tant soit peu le lieu.
Le conseil d'administration, donc, qui est composé de bénévoles, est composé de 10 membres qui sont très impliqués et qui suivent, pas au quotidien, mais presque ce qu'on fait, notre activité. On a des liens hebdomadaires avec notre présidente et avec certains membres qui ont des rôles clés, notamment aussi notre trésorier, notre vice-trésorier. Et puis, on a des liens avec l'ensemble de cette dizaine de personnes extrêmement réguliers. Je suis arrivée depuis à peine 2 mois et on a déjà fait 2 conseils d'administration. Donc voilà, il y a des temps comme ça de réunions de conseil d'administration ou de réunions de l'équipe, en tout cas du bureau, vraiment réguliers. Donc ils sont très au fait de ce que les salariés font et de comment avancent les dossiers, etc. Et ils contribuent à les faire avancer par les discussions, les débats, les délibérations qui sont prises dans ces moments-là. Et les bénévoles, plus largement, puisque après il y a beaucoup plus de bénévoles que cette dizaine de personnes très impliquées, les bénévoles, ils agissent tout au long de l'année, notamment en étant auprès de nous pour les moments de représentation, les moments où les portes du théâtre sont ouvertes pour un spectacle, en tenant la librairie, en tenant le bar, en contribuant à l'accueil des publics pour biper les billets à l'entrée, etc. Et le moment qui réunit vraiment dans la vie du Théâtre de Poche le plus de bénévoles, c'est le Festival Bonus tous les 2 ans, où là, on est, je crois que sur la dernière édition, on était quasiment 120 bénévoles qui ont des missions alors très très différentes. Ça va de l'accueil des artistes à domicile dans leur chambre d'amis à des runs parce qu'ils vont chercher des gens à la gare, à faire cuire des frites, des galettes, servir au bar, monter à la scénographie, la démonter, cuisiner des repas pour la centaine de personnes investies toute la semaine, etc. Voilà.
C'est bien vrai, en particulier lors du Festival Bonus, qu'on a vraiment l'impression qu'il y a comme une intrication entre les habitants et l'événement. On sent un attachement réciproque et très fort. Alors pour revenir à Charlotte Duchamp, à la base elle a plutôt une formation d'histoire, et c'est par le biais d'un stage qu'elle est entrée dans cet univers du spectacle vivant. Elle a donc commencé au Théâtre de Saint-Quentin, puis a poursuivi à la Soufflerie de Rezé. Je lui ai demandé comment et pourquoi elle avait eu envie de candidater à ce poste de coordinatrice. Coordinatrice, on reviendra d'ailleurs sur l'usage de ce terme.
Moi je connaissais le Théâtre de Poche pour y être venue en tant que spectatrice, en tant que programmatrice avec ma casquette pro, notamment parce que j'avais découvert le travail d'Enora Boel, du joli collectif. Et j'ai vu ici la création de On ne dit pas j'ai crevé, son dernier spectacle, que j'ai choisi ensuite de programmer à la Soufflerie. Et puis en continuant d'échanger avec Enora, j'ai appris un jour que le joli collectif avait été retenu au théâtre de l'Air Libre. Mais ça m'a pas traversé l'esprit à ce moment-là, puisque la configuration de ce lieu était particulière, avec une compagnie qui dirigeait le lieu, etc. Et puis, moi, je commençais à arriver, après un peu plus de 5 ans sur le même poste, et l'investissement sur le projet, moi, je travaillais avec un directeur, dont j'ai beaucoup traduit, porté le projet, dans cette structure. Je commençais à arriver à un moment où je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire après? C'est quoi l'étape d'après? Je vais commencer un peu à regarder à droite à gauche ce qui se passe. Et quand j'ai compris que le théâtre de poche, cherchait une direction pour piloter, coordonner ce projet, ça a fait tilt tout de suite parce que j'étais particulièrement charmé par ce théâtre, comme je crois beaucoup de monde, quand j'y suis venu, sa configuration, etc., et très intéressé par la qualité et l'exigence du projet qui a été développé ici, qui réunit beaucoup de choses, à la fois une maison pour les artistes, un lieu de recherche, de laboratoire, beaucoup d'actions culturelles, une diffusion de spectacles assez exigeante sur le théâtre contemporain, et tout ça, c'était un peu les ingrédients de quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
De fait, tout au long de son parcours professionnel, Charlotte m'expliquait qu'elle a évolué dans des structures de plus en plus réduites, mais avec des responsabilités de plus en plus importantes. Mais pourront-on faire plus petit encore que le théâtre de poche? Alors peut-être le théâtre capsule, voire le micro-théâtre, peut-être. Alors, direction ou coordination? Eh bien, la dimension relativement réduite de la structure ainsi que son histoire, on rappelle que le théâtre de poche a été géré par 2 collectifs d'artistes, tout cela fait qu'on parlera plutôt d'un travail de coordination, difficile avec une équipe aussi réduite de salariés d'envisager les décisions de manière verticale. Alors au départ, ils étaient 7 à candidater pour ce poste, et j'ai été curieux de connaître ce processus de recrutement. La première étape, on la connaît tous, CV et lettre de motivation, à l'issue de laquelle on en arrive à la présélection, la shortlist. Et là, ça se corse un peu.
Cette présélection, elle a été faite par les membres du conseil d'administration du théâtre de poche, en accord et en discussion avec l'ensemble des partenaires du théâtre de poche. Ce qu'on appelle les partenaires publics, c'est la commune des Débazouges, évidemment, c'est le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne, c'est la DRAC Bretagne, qui est l'émanation du ministère de la Culture en région, et c'est les 2 communautés de communes, puisque le théâtre de poche a la particularité de vraiment être soutenu par le Val d'Ille-Aubigné et la Bretagne romantique, et de rayonner sur l'ensemble de ce territoire-là. Et puis c'est l'équipe aussi professionnelle. Donc tous ces gens-là se sont consultés, etc., se sont mis d'accord sur une liste, ce qu'on appelle une shortlist de 7 personnes. Et on a eu plusieurs semaines pour rédiger un dossier avec un cahier des charges assez précis qui nous a été transmis, nous indiquant de quoi on devait parler, du projet artistique évidemment, du projet politique et du projet de territoire, du projet humain aussi en interne, comment on gère une équipe, etc., quelle est notre philosophie, notre vision des choses. C'est un dossier qu'on devait illustrer avec des exemples, qui devait faire, si ma mémoire est bonne, 10 ou 15 pages, je me souviens déjà plus, 15 je crois. Auquel on devait joindre des annexes, notamment des pistes budgétaires, de comment on voyait les choses, etc. Donc c'est quelque chose d'assez solide et d'assez sérieux, qui prend énormément de temps, pour lequel on pouvait, pour s'aider, contacter un certain nombre de personnes ressources, que ça soit à la DRAC, que ce soit dans l'équipe, etc., pour mieux comprendre les possibilités, les atouts, les contraintes, les limites de l'endroit, et dessiner un projet qu'on doit ensuite venir défendre devant un jury.
On l'aura compris, les enjeux sont d'autant plus importants qu'il y a beaucoup de partenaires. Et quand on dit partenaires, on parle aussi de ressources financières et donc des attentes qui vont avec. Bon, la dernière étape, c'est l'entretien devant un jury, fort heureusement réduit, tous les partenaires ne sont pas présents. En tout cas, c'est bien le projet présenté par Charlotte qui aura emporté la préférence du jury. S'appuyant en partie sur le passé du théâtre de poche, on sera plutôt dans la continuité que dans la rupture. Charlotte nous présente donc un axe du projet qu'avec l'équipe, elles sont en train de mettre en place.
la place de l'artistique dans cette maison, la place assez singulière des artistes, va continuer à exister d'une façon simplement un peu différente de ce qui était fait précédemment. Là, l'idée, c'est d'être en très étroite collaboration avec une équipe artistique sur une durée définie. A priori, une durée de 4 ans, sans doute sur 3 saisons, ce qui nous permet aussi d'être sur 2 éditions de festival, puisque notre festival est biennal. Et l'idée, c'est que cette équipe soit une sorte de compagnie. Alors, on n'a pas encore trouvé le nom, mais ça sera une compagnie résidente, une compagnie associée, une compagnie qui occupera nos murs. On ne sait pas exactement quel nom on va lui donner. On est en train de travailler avec l'équipe sur la définition justement de ce cahier des charges, et l'idée, c'est de rendre les choses concrètes vraiment dans les mois qui arrivent, que cette équipe soit vraiment à nos côtés d'ici l'été prochain. Et cette équipe, elle pourra évidemment s'inscrire dans tout ce qu'on je disais tout à l'heure sur s'engager sur l'action culturelle, sillonner le territoire avec nous, utiliser évidemment en priorité nos lieux et nos moyens pour répéter ces prochaines créations, réfléchir à des nouveaux projets. Mais l'idée de s'associer comme ça très étroitement avec une compagnie, pour nous, c'est aussi de nous aider à nous déplacer en tant que professionnels avec l'équipe dans notre façon de faire de la programmation, d'imaginer des ateliers, d'imaginer des tournées, des actions ou des temps forts. C'est de nous déplacer un petit peu et puis d'inventer des choses qu'on n'aurait pas imaginé sans cette compagnie. Alors pourquoi pas un nouveau week-end qui explorerait différentes formes artistiques dans l'année, évidemment des cartes blanches sur la programmation. Moi, mon idée, c'est de pouvoir vraiment faire la programmation ensemble et d'imaginer des choses spécifiques, de pouvoir faire rayonner aussi cette compagnie et son univers avec sa famille, son réseau d'artistes qui va lui être propre. Voilà un peu comment on envisage les choses. Donc là, en ce moment, on travaille sur la définition, un peu le cahier des charges de tout ça et de ce qu'on est capable d'offrir et ce qu'on va demander aussi à une compagnie pour cette collaboration. Et puis dans les mois qui viennent, ça va devenir beaucoup plus concret et on pourra présenter cette compagnie aux habitants.
Ce que je crois donc comprendre, c'est bien cette idée qu'une compagnie vienne superposer la marque de son identité à celle déjà forte et singulière du théâtre de poche. Pour continuer sur le projet, j'avais remarqué en fouinant sur le net que dans son précédent poste, Charlotte avait travaillé sur la question de la parité homme-femme dans la programmation. Je lui ai donc demandé ce qu'il en serait pour le théâtre de poche.
Ce que j'avais indiqué au jury, c'était effectivement des lignes de force, des valeurs comme ça, des auxquels je tiens, dont j'ai pas envie de déroger, et autour desquels doivent, à mon sens, se tricoter le projet. Il y a évidemment la question de la parité, de l'égalité femmes-hommes. Il faut qu'on donne à voir des projets de femmes, il faut que ça soit qu'il y ait des projets écrits par des femmes, il faut qu'il y ait des projets joués, portés par des femmes au plateau, parce que c'est en travaillant sur les représentations qu'on travaillera sur l'avancée de l'égalité aussi dans la société. Je crois qu'aujourd'hui c'est une évidence, mais c'est aussi vrai pour une égalité plus large, une inclusion plus large. Si on donne pas à voir sur nos plateaux des gens racisés, ça ne bougera pas non plus dans les esprits. Enfin, toutes ces questions là doivent bouger. La question notre engagement aussi sur l'écologie, elle est importante. On est un théâtre en milieu rural et se pose la question plus largement pour tout le monde dans le spectacle vivant de ça veut dire quoi tourner, c'est quoi une économie de tournée, comment on peut du coup travailler dans une grande mutualisation avec les partenaires sur le territoire, avec d'autres théâtres, avec des théâtres amis avec qui on aura des affinités sur le département ou sur la région un peu plus vastement, pour pas faire venir trois fois dans la même région des artistes qui viennent de l'autre bout du monde ou de l'autre bout de l'Europe ou même de l'autre bout de la France. Voilà, ça c'est important aussi. Il y a un certain nombre de valeurs aussi comme ça, de proximité, d'accessibilité. Comment on fait pour parler aux habitants de notre territoire, pour parler aux artistes, pour défendre certaines formes exigeantes, pour arriver à combiner l'ensemble de ces choses-là dans un projet qui reste assez joyeux et fédérateur si possible.
Eh bien, on souhaite bon vent au théâtre de poche pour la saison en cours et toutes celles à venir. Charlotte évoquait précédemment la qualité de la programmation de cette structure, et c'est vrai que pour en parler souvent avec des gens qui me disent que le théâtre les intimide un peu, Je ne saurais à nouveau trop recommander que de pousser les portes de ces petits théâtres hein, qui sont en périphérie de Rennes, et en particulier celle du théâtre de Bosch bien sûr, qui programme des formats souvent plus réduits que sur les grandes scènes nationales et qui offre ainsi peut-être un accès plus simple, plus direct au théâtre vivant parce que plus proche, plus intime. Et ce, sans jamais sacrifier à l'exigence d'explorer la création contemporaine dans toute sa diversité. Alors quelques exemples à travers une sélection hyper subjective. Vous pourriez covoiturer pour aller voir donc au théâtre de Poche, eh bien Les Géants, hein, un spectacle oxymore puisque Les Géants c'est pour les tout petits et ça ce sera les 10, 14, 16 et 18 février et c'est un des spectacles en tournée sur le territoire. Vous pourriez voir également Pling Clang les 14, 15 et 16 mars, j'aime beaucoup le titre. Il serait question de la vie en couple, du montage d'un meuble Ikea et du pliage des draps, tout un programme. Avec Hélène également, alors j'ai choisi ce spectacle parce que je connais quelques-uns des gens qui vont y participer, les 28 et 29 mars, et enfin The Jewish Hours, performance radio théâtrale et qui évidemment ne sera pas sans résonner avec la terrible actualité géopolitique. Ça, ce sera le 19 et 20 avril. Bref, vous verrez qu'on est pas mal sur les coussins des gradins du théâtre de Poche.
Merci Renan, retrouvez toute la programmation et plus encore sur théâtre-de-poche.com. Et puis Renan, on se retrouve en 2024 pour à nouveau nous parler théâtre.
Oui.
Et bien tu seras le bienvenu, évidemment. On termine avec encore un petit peu de cette symphonie des éclairs choisie par l'équipe du Théâtre de Poche.
Que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages.
Le mercredi dans Crème de la Crème, on retrouve Sozy Globaille. Bonjour Sozy.
Bonjour Yann.
Pour nous parler de livres aujourd'hui, eh bien c'est dans cette chronique qui est un peu moins régulière, Mouquet Garni. Ça veut dire que c'est ni du livre de poche, ni du livre jeunesse, c'est des sorties récentes. Mouquet Garni aujourd'hui avec Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie d'Élise Goldberg aux éditions Verdier.
Son grand-père est mort, alors la narratrice récupère son frigo. Il sent pas bon. Ils sont le chou. Et voilà, c'est parti pour évoquer la tradition culinaire juive askénaze, laquelle n'a pas peur du terme. Elle est consistante, elle est roborative, elle ignore les épices, elle n'est pas très inventive. C'est parti aussi pour évoquer le yiddish, cette langue qui disparaît peu à peu dans les familles, faute de locuteurs, sauf dans les termes culinaires. Élise Goldberg a une mémoire en morceaux. Ses parents sont séparés, ils ne sont pas pratiquants. Alors son récit est constitué de fragments, de textes, de paragraphes courts, une recherche du passé, de sa famille, dont elle se rend compte qu'il est flou, plein de trous, et qu'elle aussi n'est pas très stable. De la fuite de Varsovie, mais certains n'ont pas voulu fuir le ghetto à l'arrivée à Paris, il faut recoller les morceaux, renouer les fils. Mais savez-vous qu'on ne trouve plus de restaurants askénazes à Paris? Quelques traiteurs pour les grandes occasions, mais pas grand-chose pour les petites occasions.
Mit seinen scheinen schwarzen Augen hat dann mir Zeug gezogen, ei Bube wollen geht es mir.
L'auteur égrène ses souvenirs d'une société qui disparaît, non sans sentiment de culpabilité. Et je la cite, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de n'être pas à la hauteur, ce sentiment d'imposture, ce sentiment d'avoir toujours tort, ce manque d'empathie, ce manque de courage, ce manque d'énergie, ça vient d'où, d'après vous, dit-elle.
In
herein. Will dir tanzen, will dir singen, oh Gewalt, dir Verse springen und ihm, oh, kann ich nicht mehr sein.
Mais aussi avec humour, vous savez, l'humour juif. C'est avant tout un humour yiddish et l'auteur convoque les enquêtes de l'inspecteur Colombo pour raconter sa propre enquête faite d'amour, d'humour, d'autodérision et d'émotion aussi. Des repas gargantuesques avec une famille élargie autour de plats traditionnels pas terribles mais qui ont le goût du souvenir. Alors au fait, la carte farcie, c'est pas bon. Très très difficile à réussir et pas très bonne à manger. Alors, nous n'aurons pas dans ce livre une liste de recettes de cuisine, ni un dictionnaire yiddish, mais une succession d'impressions, de jeux de mots. Le yiddish est très très riche en polysémie et le sens varie selon le contexte. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, j'ai été ému aussi par ce premier texte publié dont la forme fragmentaire prend tout son sens au fil des pages. Je me proposais de vous en lire un très très court extrait et pardonnez-moi la prononciation du yiddish. Mais avant les Knei Delke, il y avait, prononcé comme Gershwin, comme Ger, comme Gain, le Gelfish de Fish, la carpe farcie. Quand il faisait son entrée, les cris d'enthousiasme se mêlaient aux commentaires élogieux dans un bruyant chorus. Il ne nous manquait que d'être séfarades pour que les youyou fusent. Aux yeux du non-initié, j'imagine combien ces réactions étaient mystérieuses. Comment s'extasier devant cette darne béjasse d'un poisson dont plus personne ne voulait, empli d'une farce du même beige insignifiant, condimentée d'une sauce betterave qui donnait l'impression que l'animal était victime d'une hémorragie. Voilà, vous avez le ton, ça donne envie.
Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie. Et allez savoir, même si vous n'aimez pas ça, peut-être qu'après le livre, vous aimerez ça, je ne sais pas. En tout cas, vous aimerez qu'on vous en parle, comme Elise Goldberg. Merci, Soisig, c'est paru aux éditions Verdier. On se retrouve très bientôt pour Bouquet garni, plein les poches, ou Allez, on lit. À bientôt.
À bientôt.
Hey, die Mädel, bist doch also lieb in El, in sein Spiel und kriegt den Herzen herein. Will dir tanzen, will dir singen, doch Gewalt, dir Verse springen und ihm, heute kenn ich nicht mehr sein.
Merci à Soisig Le Bail qu'on retrouvera après les vacances pour encore nous parler bouquins, l'illustration musicale de cette chronique Bouquet garni numéro 8. C'était les Boubé Maï, c'est avec le titre Oi Boubé. C'est la fin de Crème de la Crème. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission avec en invité Olivier Mélano. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Canal B. Ciao!